être vraiment un pays étranger, il faut avoir une histoire d'amour avec l'un de ses habitants. Et bien, notre invitée de ce matin a adopté cet adage à la lettre. Elle s'appelle Vanessa Montalbano et elle a décidé de prendre un aller simple pour le Japon, pour enfin connaître ce pays qui la faisait rêver. Et puis, très rapidement, pour briser la solitude, elle a utilisé des applications de rencontres. Et ça tombe bien, au Japon, on peut aller sur des applications pour faire à peu près tous les styles de rencontres. Amicales, amour d'une nuit, avec ou sans sexe, prendre un bain avec quelqu'un, juste lui tenir la main, mais aussi rencontrer les gens en fonction de leur groupe sanguin ou de la forme de leur visage. Vanessa Montalbano publie Tokyo Crush aux éditions Les Arènes, un livre qui plaira à celles et ceux qui ont envie de savoir ce que les autres font sous la couette, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent à nos différences, à l'autre, comment ils se voient et aussi comment ils nous voient. Bonjour Vanessa Montalbano.
Bonjour.
Bon, alors il faut quand même une sacrée dose de courage pour partir sur un coup de tête au Japon sans même parler vraiment la langue. Hein. Qu'est-ce qui vous a pris? C'était quoi le projet au départ?
Merci. Oui, mais c'était surtout une envie d'ailleurs en fait, hein. Une envie de découvrir autre chose et de partir loin. Et puis c'était le moment ou jamais de faire un PVT, donc un visa vacances-travail. On peut faire avancer 30 ans. Et donc j'avais 28 ans, j'allais bientôt fêter mes 29 ans et je me suis dit c'est le moment ou jamais.
Alors, vous nous dites quand même que c'est une langue qui est très facile à apprendre, mais que ce qui est compliqué, c'est plutôt les règles de politesse, comment s'adresser aux gens. Expliquez-nous.
Alors, c'est une langue qui est facile à parler, mais difficile à maîtriser. Encore aujourd'hui, le keigo, par exemple, j'en parle dans mon livre, qui est le système de politesse en japonais, qui est très complexe pour les japonais aussi, que je maîtrise pas encore aujourd'hui. Mais c'est fascinant, en fait c'est mon premier vrai coup de cœur quand je pars au Japon, c'est la langue. J'arrive et je parle vraiment pas du tout et je me mets à fond dedans et j'étudie et je commence Tinder.
Et vous commencez Tinder. Alors c'était évident pour vous de passer par des applications pour rencontrer du monde. Est-ce que c'est parce que tous les gens de votre génération font ça ou bien c'est parce que c'est comme ça que font les Japonais?
Je pense que c'est mes copines françaises à la base qui m'ont conseillé d'aller sur Tinder. Je me suis dit pourquoi pas, effectivement. J'avais envie de rencontrer du monde, de rencontrer des locaux surtout, et de pratiquer le japonais. Et je me suis dit, ben ça a l'air fun, faisons ça.
Alors la première chose qui m'a frappée en lisant le récit de vos premières rencontres avec des japonais, c'est à quel point le sujet de la rencontre amoureuse est complexe en fait pour eux. Ils se mettent énormément de pression, les hommes sont très complexés, notamment par la taille de leur sexe. D'ailleurs ils ont à la fois un côté excessivement romantique et à la fois ils veulent aussi faire des choses parfois très bizarres avec des inconnus. Comment vous qualifieriez la vision de l'amour des japonais, ou plutôt les différentes visions, parce qu'on comprend aussi qu'il y a plusieurs façons d'aimer.
Oui, alors c'est un vaste sujet, la question est difficile. Je pense que c'est chacun a des visions très, très différentes et cherche des choses très particulières. Et c'est la complexité de tout ça qui m'a fascinée et qui est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Parce que, vous le disiez, c'est rempli de codes, c'est des choses auxquelles nous, en tant qu'Européens, on ne pense pas. C'est la façon de se décrire, c'est ce qu'on recherche. Vous évoquiez tout à l'heure les gens qui cherchent juste quelqu'un avec qui prendre un bain ou avec qui sortir, mais sans relation sexuelle, ou alors ça peut être que des relations sexuelles et parfois tarifées. Voilà, donc il y a vraiment tous les cas de figure et finalement... J'ai des sentiments un peu partagés parce que j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup de solitude et que chacun fait un peu à sa carte. Et en même temps, est-ce que c'est pas l'avenir de relation aussi de faire un peu à sa carte et d'être très clair sur ce qu'on veut et de fabriquer un peu les relations qu'on veut comme ça?
Oui, c'est ce que vous notez notamment, il y a une checklist du parfait gentleman que beaucoup de garçons ont appris par cœur. Mais vous, ce que vous regrettez, c'est qu'il n'y avait pas plus d'authenticité. Mais pour eux, en tout cas, c'est important. Alors, c'est quoi la checklist du parfait gentleman au Japon?
Alors il y a plein de choses, hein, mais ça va très très loin, hein, et c'est drôle parce que mes copines japonaises ont une théorie, c'est que les hommes japonais sont gentlemen par rapport à moi, du fait que je sois française, donc ils s'imaginent que je suis habituée à ce genre de traitement. Mais moi, je leur dis toujours, quand on marche dans la rue et que l'homme marche côté voiture ou que dans l'escalator il se met derrière moi pour pas que je tombe... C'est des choses, je crois que les hommes européens, et en tout cas les hommes français, n'y pensent pas. Mais effectivement, je regrette plutôt le manque de spontanéité parfois. On parle notamment de la kokuraku, qui est la confession. Donc avant même que la relation commence, on doit déclarer officiellement, demander « veux-tu être ma petite amie, veux-tu être mon petit ami ?» Et effectivement, ça manque un peu de spontanéité peut-être, mais ça fait des bons souvenirs.
Oui, vous racontez aussi, enfin, y a beaucoup de choses. Hein. Par exemple, si vous êtes à vélo, le garçon doit vous tenir le vélo. Si vous avez un sac, il doit vous proposer de le porter. Alors, il y a aussi un code du savoir-être dans ces relations pour les filles. Mais vous, vous ne le connaissiez pas. Vous étiez une, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, une kuki yomenai. Qu'est-ce que c'est?
Oui, exactement. Alors, kuki yomenai, ça veut dire ne pas savoir lire l'air. Donc, c'est ne pas savoir prendre la température de ce qui se passe, d'une situation, et être un peu, ben, être un peu à l'ouest, quoi. Et effectivement, moi, je suis arrivée dans cette société tellement codifiée que j'étais presque trop naturelle, j'imagine. Bon, ça devait être mon charme. J'essaie de faire la part des choses en me disant que ça devait être mon point fort. Mais effectivement, c'est pas facile. Et même, c'était très frustrant au début parce que mon japonais, mon niveau de japonais progressait. Mais ça m'aidait pas toujours à lire les situations et à agir comme la société japonaise attendait que j'agisse en tant que femme, en tant que trentenaire, en tant que célibataire.
Il y a notamment une façon de parler. Les hommes et les femmes ne parlent pas de la même façon. Ils n'utilisent pas forcément les mêmes pronoms. Il y a une façon vraiment genrée de s'exprimer.
Oui, tout à fait. Même la façon dont on réfère à soi-même, dans la façon dont on dit « je », en fonction si on est un homme ou une femme, si on veut paraître poli, si on veut paraître plus masculin pour un homme, si on veut paraître un peu mignonne. Il y a des tas de façons de faire et on est effectivement jugé sur toutes ces petites choses-là, on est scruté. Il y a des hommes qui font vraiment attention, certaines femmes qui veulent paraître encore plus mignonnes, qui réfèrent à elles-mêmes en parlant, en se nommant en fait. Donc Vanessa veut faire ça, Vanessa veut manger ça. Et moi par exemple, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire, j'ai jamais pu m'y faire, j'y arrive pas quoi. Je juge absolument pas les filles qui le font, hein, mais c'est pas mon truc.
Vanessa Montalbano, vous vous sentiez pas quand même un peu dans un carcan? Est-ce que vous avez l'impression, enfin c'est vrai que d'entendre tous ces codes, alors bien sûr, ben voilà, c'est des différences culturelles, hein, mais est-ce que vous avez l'impression que, alors déjà, vous, comment vous vous êtes sentie dans ces codes-là, et puis aussi, est-ce que les gens sont heureux avec ça?
Absolument. En japonais, on parle de tatemae et de one. Donc le tatemae, c'est la face que l'on présente au monde, en fait. Et le one, c'est ce que l'on pense vraiment. Et cette culture, je l'aime autant que je la déteste parce que je trouve ça très dur, je trouve ça très stressant. Même pour les Japonais, ça leur met beaucoup de pression au quotidien dans la société parce que la société a des attentes très fortes envers eux. Moi, j'ai la chance, en tant qu'étrangère, de passer un peu à travers ça parce que j'ai pas tous les codes et les Japonais ne s'attendent pas à ce que je les ai. Et en même temps, au début, j'ai trouvé ça comme un manque d'honnêteté et d'authenticité. Aujourd'hui, je trouve que c'est comme ça, ça marche. Et puis finalement, si tout le monde a les codes, même si on dit pas les choses, le message passe. Donc, ça marche.
Olivier Marchal, vous aviez une question.
Oui, bonjour. Ce livre, vous l'avez écrit en cours de route ou vous l'avez écrit en rentrant? Et est-ce que si vous l'avez écrit en rentrant, ça vous a amené aussi maintenant à poser un regard sur notre manière de nous rencontrer aussi ici en Europe?
Ah, c'est une bonne question. Alors, je vis toujours au Japon. Je suis rentrée pour la sortie de mon livre. Je suis pour un mois en France et c'est la première fois que je rentre en 6 ans. Donc là, je suis plutôt dans le culture choc inversé, de me dire « Ouais, la France, en fait, c'est ça !»
Je le disais en introduction, on se rencontre aussi et on se discrimine par les groupes sanguins. Alors, dans votre livre, on va d'étonnement en étonnement, hein, mais comme celui-ci, je l'ai cité, j'aimerais bien quand même qu'on l'explique, Vanessa Montalbano. Pourquoi le groupe sanguin, c'est important pour les Japonais?
Oui, alors ça, je l'ai découvert à force de faire des dates. Je vais à un date et on me demande « C'est quoi ton groupe sanguin ?» Et puis un deuxième, et puis une troisième fois. Et puis, j'étais même pas sûre, en fait. Et j'ai appelé ma mère, elle m'a dit « Bah, t'es O. » Et donc, j'en ai discuté avec un des garçons et il m'a dit « Ah, mais oui, mais du coup, t'es plutôt du genre optimiste. » Et en faisant des recherches, je me suis aperçue que j'étais un leader né, que j'étais, mais en même temps, un peu effrayée de montrer mes véritables sentiments. Mais qu'en même temps, les hauts étaient c'est la deuxième majorité au Japon, les A étant les plus nombreux. Donc, on a plutôt bonne publicité. Les B et les AB ont plutôt mauvaise publicité. Dans le cas des B notamment, on parle même d'harcèlement par le sang. Parce qu'en fait, c'est devenu un tel phénomène que dans les années 80, il me semble, c'est une question qui se posait même aux entretiens d'embauche. Et selon si on était O plutôt bien et vu comme de bons travailleurs, ou B plutôt vu comme brouillon, on pouvait avoir le job ou non.
Un livre absolument étonnant, Tokyo Crush de Vanessa Montalbano, qui est sorti aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup.